authentique. Le fils de Léon Grand, Alain Grand, a repris à la mort de son père la direction de l'écurie Atlantique. Et là, le sport est devenu beaucoup plus prioritaire, je dirais, dans les activités de l'écurie. Et ça a été, à une époque, dans les années 60, entre 60 et 70, une des plus grosses écuries, groupe, enfin on appelait ça écurie, mais enfin un groupe d'amis, procurant des pilotes sur l'ensemble du territoire français, dans les plus grandes épreuves, puisque l'écurie Atlantique a figuré autant en slalom local, jusqu'aux 24 heures du Mans, en passant par la Targa Florio, Liège-Rome-Liège, etc. Donc des pilotes de l'écurie Atlantique ont été présents sur tous les tableaux de la course automobile à une certaine époque brillante, je dirais, des années 60 à 80. Et puis, les choses étant ce qu'elles sont, c'est un petit peu tombé dans l'oubli, dans la mesure où l'écurie Atlantique organisait, en collaboration avec l'Automobile Club du Sud-Ouest, le Rallye du Sud-Ouest, qui était l'épreuve phare en Gironde, épreuve qui comptait pour le championnat de France de la discipline. Et l'écurie Atlantique était très impliquée dans cette organisation-là. En 1984, le dernier rallye Bordeaux-Sud-Ouest a eu lieu. Après, pour des raisons de difficultés d'organisation, des raisons financières, etc., c'est tombé dans l'oubli complètement. Et le Bordeaux Sud-Ouest classique et ainsi que l'écurie atlantique, telles les Phénix, sont renées de leurs cendres en 2007.
Voilà. Donc cette année, on en parlera tout à l'heure. Hein, on a repris cette épreuve Bordeaux Sud-Ouest classique, mais sous une autre forme maintenant. Et donc, ça a repris et sous l'impulsion un petit peu de vous, Didier Faure. Alors. Cette idée de remonter, de faire renaître le phénix de ses cendres, c'est né comment?
C'est né, c'est une vieille idée, et puis comme je suis un tout petit peu têtu, quand j'ai une idée, je suis pas assis dessus, donc un jour, l'idée, elle est venue, elle existait, et pour aller jusqu'au bout des choses, j'étais parti faire un rallye en Espagne avec mon épouse, et en rentrant, en Espagne, on nous avait donné tous nos documents d'épreuve de rallye dans un casino. On était parti faire un rallye qu'on avait couru en champion d'Europe il y a quelques années. Et donc, on nous donne nos papiers dans ce casino, on fait l'épreuve, n'est-ce pas, et nous rentrons sur Bordeaux. Et sur la route, tout d'un coup, j'ai dit à ma femme, on va faire le Bordeaux Sud-Ouest et on partira du casino barrière de Bordeaux. Eh bien, on a fait le Bordeaux Sud-Ouest et on part du casino barrière de Bordeaux. Après une petite réunion entre amis où il y a un groupe de fous qui a dit ben oui on va le faire avec toi. Voilà, et vous en avez deux ici qui sont là depuis le début.
Voilà, alors au début vous avez remonté, vous étiez combien à remonter l'écurie Atlantique?
Oh, alors là écoutez, on était autour de la table le premier soir quand on était 6-7.
Oui, je pense, je dirais peut-être une petite douzaine, quoi. Hein. Bon, actuellement, on a perdu, sur cette douzaine, on en a perdu deux en route, pour des raisons diverses. Mais bon, je crois que c'était ça, une dizaine ou une douzaine, là. Quand on a commencé à rentrer dans le détail de l'organisation du premier Bordeaux Sud-Ouest Classique.
Voilà, donc...
C'est une belle aventure humaine, en tout cas.
Tout à fait, justement, le but de l'émission, c'est de faire... connaître un petit peu ces personnes qui se sont lancées, qui font des actions. Alors, on va commencer avec Jean-Luc Fournier. Donc, Jean-Luc Fournier, c'est un peu le monsieur presse et com de l'écurie. Mais votre parcours, Jean-Luc?
Oh, mon parcours. Mon parcours, je suis natif du nord de la France et j'ai couru énormément en Belgique. En course de côte en particulier, je roulais contre Marcel Tarès ou Tony Gillet. Marcel Tarès qui a été multiple champion de France et Tony Gillet qui est le créateur fou de la Vertigo, et c'était des amis avec lesquels je m'entendais fort bien. Puis je roulais dans l'écurie avec Hervé Bayard qui avait été champion d'Europe de la montagne, donc c'était une belle époque et je roulais déjà avec une Alpine, une berlinette Alpine. J'ai eu la chance d'en avoir usé 10 dans ma vie, et c'est un souvenir fantastique. Pour des raisons professionnelles, je suis arrivé à Bordeaux en 90, et J'ai repris à ce moment-là un petit peu les courses, mais en véhicule d'époque. J'avais toujours mes Alpines, véhicule d'époque, je roulais un petit peu par ici. Et puis j'ai regardé qui faisait quoi. Et un jour, il y a eu un salon de la voiture à Bordeaux. Et puis là, j'ai fait connaissance avec Didier. Quand Didier a eu l'idée de relancer le Bordeaux Sud-Ouest, il a eu la gentillesse de m'appeler, ce en quoi, évidemment, j'ai adhéré. Pendant ce temps-là, j'ai continué à rouler un petit peu en véhicule ancien, avec des Alpines ou des vieilles Saab. Et puis, j'ai eu aussi la chance d'arrêter de travailler. C'est un grand bonheur. J'étais directeur d'une affaire de béton, ici, qui s'appelait La Nive, qui est à quelques mètres d'ici. Et j'ai pu faire ce que je voulais faire depuis toujours, parce que c'était pas ma vocation d'être dans les matériaux. Je rêvais de faire du journalisme et du journalisme automobile. Donc j'ai commencé par la petite porte à écrire quelques articles et puis à écrire quelques petits livres et puis voilà et puis maintenant
des grands livres.
Maintenant un petit peu, hein, oui, on en a fait une quinzaine et puis écrire régulièrement dans 1000, dans Échappement Classique, dans Gasoline, dans Autodiva, voilà. Donc ça devient un vrai métier. C'est la même chose qu'avant, sauf qu'avant j'avais les week-ends, mais maintenant je les ai plus.
Voilà. Alors dans les livres qui sont un petit peu connus quand même dans la région et dont on a eu l'occasion de parler dans l'émission, notamment l'auteur du livre sur les motoblocs.
Oui, motobloc, je tenais particulièrement à faire... Enfin, il faut d'abord, avant de commencer sur motobloc, je n'écris des livres que sur des sujets qui n'ont jamais été traités et sur lesquels il y a encore beaucoup de personnes ayant l'information de première main.
Voilà, donc aller chercher l'information à la source, parce qu'on a aujourd'hui une grosse problématique de gens qui font du journalisme et qui ne font que se mettre sur Internet, copier-coller, et je fais du journalisme. Non, le journalisme qui demande une vraie recherche, et pas juste sur Internet, mais aller fouiller en local et aller chercher l'information.
Les gens qui me connaissent un peu savent que mes capacités en Internet sont assez limitées, et donc ce qui prouve bien que je ne sais pas utiliser ce genre de choses, et je ne regrette pas. Donc là, motoblog, c'était un peu particulier, puisqu'en fait, l'usine était à quelques mètres des matériaux de la Nive, nous étions pratiquement voisins, j'avais quelques anciens ouvriers dont les parents avaient travaillé dans motobloc. Et puis j'ai eu la chance surtout de récupérer énormément d'archives d'origine de l'usine. Et donc ça nous a permis de faire cet ouvrage qui est important, parce que c'était motobloc, indépendamment de l'histoire de la voiture et des camions et des mobilettes, c'est surtout quelque chose d'important au niveau social. Et c'était ça qui était intéressant. Et c'était également un petit clin d'œil avec un de nos collaborateurs au Bordeaux Sud-Ouest qui s'appelle Claude Gors, qui malheureusement nous a quittés. Et Claude était très amateur de cette marque, et donc c'était également un petit clin d'œil pour pouvoir le travailler avec lui. Et puis voilà, donc on a fait ça, et puis on a fait également récemment un autre livre sur l'histoire des rallyes à Bordeaux, et celui-là a été fait en collaboration avec Frédéric Laurence.
Voilà, qu'on a eu l'occasion de recevoir.
Et dans lequel on essaie de resituer un petit peu l'histoire de l'écurie atlantique et l'histoire du Bordeaux Sud-Ouest. On vous en dira deux mots tout à l'heure, si ça vous intéresse, avoir quelques éléments sur l'histoire du Bordeaux Sud-Ouest, parce que c'est quand même une épreuve qui est importante.
Tout à fait. Notre troisième invité est Henri Courrèges. Alors, plutôt le trésorier du groupe.
Voilà. Bon, moi, comment est-ce que je suis arrivé dans cette organisation? C'est par l'intermédiaire de Didier. Et Didier, c'est un copain que j'ai connu dans les années 60.
Henri, si tu te rappelles bien, on devait avoir 10 ou 11 ans.
Ouais, c'est ça, voilà. Tout à fait. Donc, connu Didier dans les années 60, on s'est un peu perdu de vue avec la période fin des années 60, tout début des années 70. On s'est retrouvé, je crois, en 72 pour le mariage d'un ami commun. Et depuis, on ne s'est plus quitté. Donc, voilà. Alors, années 70, j'ai navigué Didier pendant une année sur la berlinette. Et puis ensuite, je me suis occupé de son assistance. On a baigné à cette époque-là, dans le sport automobile. Et puis, début des années 2000, donc quand Didier a cherché à relancer, à constituer une équipe pour organiser le Bordeaux Sud-Ouest Classique, et ben, il m'a appelé et c'est sans hésitation que je lui ai dit je suis partant pour l'aventure. Voilà, pour résumer un peu nos relations depuis ces années 60.
Voilà. Et puis Didier, alors, l'historique de Didier Faure? On en a parlé légèrement, mais de la fin alors. Ça naît comment, cette passion de l'auto?
Je suis tombé dedans quand j'étais petit, je pense. Puisque mon grand-père paternel était très amateur de voitures et de motos, mon père également. J'ai conduit tout petit. Mais ma première vraie passion, c'était le motocross. J'avais les yeux de chimène pour ce sport-là, parce que mon père connaissait un grand pilote bordelais qui s'appelle Raymond Mosconi, qui a été champion de France, etc. Et il y avait ici, pas loin d'ici, dans le parc du Château Palmer, il y avait une grosse épreuve de motocross. Il y en avait une autre à Arbis, donc qui est pas très très loin d'ici. Et j'ai suivi avec mon père, on a suivi les courses de motocross. Et ça, c'était un truc qui me fascinait. Pour moi, c'était le fin du fin. Donc j'ai fait du motocross en privé, naturellement. Et j'ai découvert le rallye d'abord. Toujours au travers de mon père appartenait à l'écurie Atlantique, alors vous voyez, tout est lié quelque part. Et j'étais au lycée à l'époque et je ne jurais que de Norton, de Vélo 7 et autres motos mythiques. Et le rallye du Sud-Ouest partait de l'hémicycle de la part de la place des Quinconces, et un de mes copains de lycée me dit tiens, on va aller voir le départ du rallye. Je dis, tiens, c'est bien, mon père y est. Ah, ton père y est, comment ça se fait, etc. Donc, et nous sommes partis, le soir, assister à un passage du rallye du Sud-Ouest à Lignon de Bordeaux, qui était une des spéciales mythiques du rallye, sans doute la dernière, je crois. Et là, j'ai vu passer ces autos, la nuit, alors les phares, voilà. Et là, j'ai abandonné instantanément l'idée de continuer à faire de la moto et de me fracasser. Et j'ai dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Bon, voilà. Et c'est parti comme ça. Et puis, le permis de conduire, le premier rallye aussitôt après, et ainsi de suite, quoi. Et j'ai eu la chance de faire profession de sport automobile, dans la mesure où j'ai couru en amateur pendant quelques années. Henri m'a accompagné effectivement quelques temps. Claude Gors était mon équipier historique, je dirais. J'ai arrêté de courir parce que je suis parti m'occuper du circuit de Nogaro dont nous parlions tout à l'heure. Et puis je suis parti à la course, j'ai fait des années de champion du monde d'endurance en tant que team manager. Donc je pense avoir été un des rares du groupe à être devenu professionnel du sport automobile. Et je crois que c'est une passion dont on meurt guéri, donc pour l'instant je me sens encore plutôt pas mal, quoi.
Donc voilà, avant tout une aventure humaine, hein, de toute façon, pour constituer. Alors il y a d'autres personnes dont vous voulez parler qui sont les pionniers de cette renaissance et qui peuvent pas être avec nous aujourd'hui.
Oui, si mes petits camarades veulent bien me laisser, enfin, je vais monopoliser la parole. Au départ, il y avait notre ami Claude. Bon, il est mort le 29 janvier l'année dernière. Il me manque énormément. C'était une cheville ouvrière. Mais il faut savoir que les gens qui font le Bordeaux Sud-Ouest aujourd'hui ont un passé sportif automobile également, et ils sont également issus de l'écurie Atlantique. Alors, pour les citer, on va pas tous les citer, mais notre camarade Alain Lacouture et Bernard Mandojana, qui sont un vieux couple, si je peux me permettre cette expression, eux aussi ont usé leurs pneumatiques sous les couleurs de l'écurie Atlantique. Mais on est aujourd'hui 15-17, le groupe au grand complet, Henri, hein, voilà. Et puis, mais tout le monde aime les autos, le concept automobile. La course peut-être beaucoup moins, mais le concept automobile, parce que on part tous du principe que l'automobile c'est un outil de liberté, qui peut être un très bel outil, parce qu'il y a des gens qui savent dessiner et construire de très très belles autos. Mais avant tout, c'est un outil de liberté pour aller du point A au point B, du point B au point C, en se foutant pas mal de ce qui se passe. Aujourd'hui, bien sûr, c'est battu en brèche, mais pour nous, encore dinosaures de l'automobile, ça reste quand même un superbe outil de liberté.
Voilà, alors question qui n'est pas souvent facile, que je vais vous poser à chacun d'entre vous. Dans votre carrière, la voiture qui vous a le plus marqué et l'épreuve qui est votre préférée tout au long de votre carrière, on va dire. On va commencer par Jean-Luc.
Ah, ça c'est demander à un enfant devant un magasin de jouets quel jouet il veut. Ça voilà. C'est à peu près... Bon. Alors, la voiture qui m'a le plus marqué, évidemment, c'est la berlinette alpine, puisque je vous disais tout à l'heure, j'en ai usé une dizaine, qu'aujourd'hui j'ai la chance d'être l'historien officiel de la marque au moment où la marque renaît. Donc c'est pour moi fantastique. J'ai vécu avec Alpine depuis 1955 et j'espère bien que ça dure encore un peu. Donc ça c'est la chose la plus formidable de voiture. Mais il y en a d'autres évidemment. Alors après, et puis si je dois en voir une belle, par contre, c'est la Bugatti Atlantique. Ça c'est pour moi, ça c'est le summum de l'élégance et la vraie voiture. Bon.
Voilà. Donc si vos amis veulent vous faire un cadeau pour votre anniversaire, ils savent quoi faire.
Oui, même au 43e pour la Bugatti. Bon. Concernant les épreuves, alors les épreuves c'est très très varié. J'ai des souvenirs extraordinaires de courses de côte, parce que les courses de côte dans les années 70. C'était complètement fou. On partait avec des pneus. Moi, je courais à l'époque avec une monoplace de Formule 3, et on partait sous la. C'était dans le nord de la France ou en Belgique, qui fait pas toujours très beau. Donc, on partait dans les sous-bois avec des pneus slick, sans ceinture, sans glisseur de sécurité, évidemment. Et avec des passages, en particulier dans la course de côte de Namur en Belgique, où on passait sur les pavés. Et c'est complètement fou, quoi. C'est quand on y repense aujourd'hui, on ne savait pas que c'était dangereux, mais c'était très agréable. Et puis on le faisait tous. Et je raconte tout à l'heure qu'il y avait Bayard ou Tarès ou Gillet qui le faisaient avec des voitures encore plus puissantes que les miennes. Donc ça, c'est intéressant. À côté de ça, il y a l'ambiance des 24 heures du Mans, mais avant. Les 24 heures du Mans avant, je dirais, du temps où on pouvait accéder au balcon de ravitaillement, et où derrière les balcons de ravitaillement, il y avait des mécaniciens qui réparaient leurs voitures, les voitures de course. Là, je suis allé au Mans l'année dernière. Les balcons, on peut plus y accéder parce qu'il y en a plus. Et puis derrière, ce sont des structures d'accueil où on boit du champagne avec des jeunes filles très agréables, mais c'est pas pour ça que c'est intéressant d'aller
au Mans. Tout à fait. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller dans les années 80, voilà. Et avoir accès au stand pendant la course. Voilà. C'est vrai que c'était autre chose.
Et puis, il y avait les rallyes qui étaient, alors, j'ai énormément d'admiration pour les rallyemen d'aujourd'hui, qui vont très très vite. Les gens comme Loeb sont fantastiques. Mais, j'ai un peu plus d'admiration encore pour les grandes épreuves, quand les épreuves duraient trois nuits et quatre jours, comme la Coupe des Alpes. Ou des épreuves comme les routes du Nord à l'époque, où il y a 100 voitures au départ et 12 à l'arrivée, ou des choses comme ça, où c'est vraiment, voilà, ça c'était avec les phares, le bruit, les assistances, et on partait avec rien, puisque les assistances se faisaient avec rien. Mais on avait tous le sourire, et il n'y avait pas les budgets fantastiques, ça permettait, on pouvait courir. Tout à l'heure, Didier évoquait le fait que des pilotes de l'écurie Atlantique ont fait les 24 heures du Mans ou le Liège-Sofia Liège. Ben voilà, on pouvait tous faire ça. Il suffisait d'avoir une passion. On pouvait pas avoir trois passions. On pouvait pas faire la chasse et puis l'auto et puis autre chose et les voyages. Mais celui qui voulait faire qu'une seule passion pouvait aller jusqu'au bout de son rêve. Et c'est ce qu'on essaie de refaire avec le Bordeaux aujourd'hui, en disant bon, on est tous conscients qu'on ne sera pas champion du monde. Quoique certains ont encore quelques espoirs, mais on est tous conscients qu'on ne sera pas champion du monde, mais on peut au moins retrouver une ambiance qui était la nôtre à l'époque.
Voilà, justement, maintenant, c'est vrai que c'est plus possible, et j'avais une interview d'Henri Pescarolo qui nous le disait, même lui, pourtant, hein, qui est un monstre dans ce milieu-là, qui disait maintenant, il faut trop d'argent pour pouvoir faire de l'endurance, donc j'en fais plus, je me mets sur d'autres formes de compétition, mais c'est vrai qu'il y a eu une époque, ben voilà, où on pouvait avoir sa passion et faire des compétitions de légende. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. On va passer à Henri. Alors, Henri. Quelle voiture vous a le plus marqué et quelle épreuve ?
Ben, je dirais que moi, la voiture qui m'a, une des voitures qui m'a le plus marqué, c'est la berlinette. Hein, on revient dessus parce que c'était l'époque des grands exploits, des Darniche, des Terrier, des Andruet, etc. Tout ça sur sur berlinette, le Monte Carlo, etc. C'était pour moi dans ces années-là une des voitures dont je rêvais. Et puis je dirais que une de mes passions aussi c'est les voitures de collection, et une des voitures dont je me souviendrai toujours, c'est la première Alfa Romeo que j'ai achetée. C'était une Alfa Sud TI, la première voiture neuve que j'ai achetée. J'en ai usé 18 après des Alfa Romeo quand même. Voilà, donc c'est principalement ces voitures qui m'ont marqué. En ce qui concerne les compétitions, moi je garderai des souvenirs inoubliables des 24 heures du Mans, qui pour moi, j'ai eu dans ma vie professionnelle la facilité pas de participer mais d'assister à une bonne quinzaine d'éditions des 24 heures du Mans. Comme disait Jean-Luc, à l'époque où on pouvait encore accéder au balcon de ravitaillement et vraiment suivre la course de très très près, c'était une toute autre ambiance que celle qu'il y a maintenant, hein, qui est beaucoup moins attractive quoi qu'à cette époque.
Et donc on va poser la question bien sûr à Didier. Alors beaucoup plus dur, parce qu'il y en a des voitures qui sont passées là.
Oui, beaucoup, mais je vais pas être original. J'ai rêvé d'avoir une berlinette alpine, j'en ai eu une. J'ai pas honte de dire, je me suis levé la nuit pour aller la toucher dans le garage le soir où elle est arrivée à la maison. Et effectivement, c'est une auto qui nous a tous marqués, comme disait très justement Henri, au travers des exploits de d'Andruet, quand même le Turini sur trois roues, ça reste quand même une image monstrueuse du rallye, même si aujourd'hui l'Hub et ses petits camarades vont la Dvala et Neuville et autres, ils vont tous très très vite, il n'y a pas de doute. Mais c'est quand même Andruet, le petit père Terrier, c'était quand même des gugus, ils allaient très très vite, il n'y a pas de doute. Puis dans des conditions pneumatiques compliquées par rapport à ce que connaissent aujourd'hui les pilotes. Mais le rallye reste quand même une épreuve excessivement compliquée, très difficile. Donc la berlinette reste effectivement une auto qui m'a profondément marqué. Quant aux épreuves, comme j'ai eu la chance de faire le tour du monde des circuits ou à peu près, en rallye, l'épreuve qui m'a le plus marqué, parce que je l'ai faite deux fois, c'est le tour auto. Ça, c'est un truc, c'était un truc d'homme, parce qu'on roulait pratiquement 5 jours et 4 nuits, et on traversait la France d'est en ouest et du nord au sud pour aller faire des épreuves spéciales. Ça c'était vraiment une grosse épreuve. J'ai eu la chance de la faire en 79 et 80 avec mon camarade Patrick Huette, et c'était vraiment là aussi une grosse aventure d'homme. Après, les épreuves qui m'ont marqué, oui bien sûr le Mans, parce que je l'ai fait 23 fois, donc quand même ça marque.
Ça compte, oui.
Oui, quelques fois. J'ai eu la chance que mes voitures soient sur le podium. J'ai eu la chance de travailler dans de grosses équipes, etc. Bon, le Mans reste effectivement une image forte, et c'est quand même la plus grande course du monde, enfin une des plus grandes courses du monde. Après, je vous dirais que les Spa, pour les gens qui n'y sont jamais allés, je leur conseille d'aller un jour à Spa, assister à une course de proto, enfin une course d'endurance à Spa.
On en parle souvent puisque c'est mon circuit préféré, voilà. Et j'en parle assez souvent justement. C'est vrai que la cuvette à Spa, faut la connaître.
Il faut aller à Masta, on ne va plus maintenant, mais à Masta et Halloween et Blanchimont, qui étaient des morceaux de bravoure.
Stavelot.
C'était des trucs, et puis vous parliez de Pescarolo tout à l'heure, évidemment, Pescarolo à Spa, c'était le roi. Et c'était des extraterrestres, mais abordables. C'est la grande différence aujourd'hui. Ils sont encore plus extraterrestres, mais cachés.
Très bien. Ben, on va faire notre première pause musicale avec une chanson qui a été créée par monsieur Ray Charles en 1964. Mais là, c'est une version un petit peu revisitée.
Bells flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Wheels drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when the day is done. And this old world is a new world, and a bold world for me. Stars when you shine, you know how I feel. Set off the
Et donc c'était une petite surprise pour Didier. Alors, ce chanteur que l'on vient d'entendre.
Ben oui, alors ça c'est... merci infiniment. Merci infiniment parce que effectivement c'est mon petit-fils qui vient d'interpréter Feel Good.
Voilà, c'est Gauthier Piqué. Alors ouais. À la régie, on a inversé les deux titres, hein, puisqu'en fait il y a deux titres qui vont passer. Donc Gauthier Piqué, que j'ai eu l'occasion de recevoir moi dans une autre émission sur Atlantica, qui est vraiment un chanteur plein de talent, parce qu'il a quel âge Gauthier ?
Il a 15 ans. Il a plein de talent pour tout un tas de choses.
Voilà, et puis c'est il a une petite carrière qui commence. Je crois qu'il est monté sur Paris en ce moment.
Non, en ce moment il est à l'école.
Il
a des priorités. La chanson c'est très très bien, mais il est en seconde et je pense qu'il a encore un tout petit chemin à faire.
Tout à fait. Il y a le temps, mais bon voilà, il a un vrai talent. Ouais. On aura l'occasion de le réécouter tout à l'heure avec le Unchain My Heart justement. Donc là c'était une reprise de Nina Simone de 1965 qui était Feeling Good.
Ouais.
Voilà.
Et, donc... et quand il a chanté pour la première fois Unchained My Heart, je lui ai dit quand même t'attaquer à Joe Cocker. Pas de souci.
Bon, voilà. Alors. Et c'est le premier titre par lequel je l'ai entendu justement qu'on m'avait envoyé pour le sélectionner pour une émission de radio. Et franchement, c'est vrai que j'ai même pas eu besoin d'aller jusqu'au bout pour dire oui, il nous le faut la semaine prochaine dans l'émission. Donc voilà, petit clin d'œil.
Merci, c'est très très chouette.
Très d'habitude, je laisse le choix aux invités.
Je suis très ému.
Et là, j'ai
très,
dit
très
non, j'impose. Et parce que j'avais ces titres justement qu'il m'avait envoyé. Donc on va voir que tout à l'heure, on aura l'occasion d'écouter le Unchained My Heart justement. Donc que Joe Cocker avait repris, hein, mais qui a été créé par Ray Charles. On va voir qu'il y a quand même de la puissance vocale. On va
À ceci point, si je peux dire, c'est que Ray Charles avait fait un très très beau morceau, et indiscutablement, c'était une bluette. Parce que quand Joe Cocker interprète un Change My Heart, ça reprend
là, on est en rock,
tout petit peu plus de,
voilà,
de punch. Mais
tout à fait. Donc on va en revenir maintenant un petit peu à l'écurie. Donc voilà, on a vu que c'était une histoire humaine avant tout, une idée qui naît, des amis qui se réunissent, et donc la création de la toute première édition, donc de la première réédition, on va dire, du Bordeaux Sud-Ouest Classique. Qu'est-ce qu'il y a eu pendant ces 10 éditions, puisque c'est la 10e qui va se faire, donc dans les 9 rééditions qui ont eu lieu, les étapes qui ont été passées, l'engouement peut-être de plus de participants, de public, la première a dû être un petit peu plus compliquée à faire que la 10e, non?
Bah, la première c'est toujours extraordinaire, une première, parce que on est très excité, on a tout préparé sauf ce qu'on va avoir, donc évidemment il y a toujours des surprises, mais ce qui nous a surtout séduit, c'est qu'à l'arrivée on a été entre guillemets applaudi par les concurrents, et ça nous a beaucoup plu, c'était très agréable. On a eu des signes d'encouragement, et puis je dirais on a été aussi un petit peu l'initiateur avec Didier de fédérer les différentes épreuves qui se faisaient dans la région, qu'on a appelé donc le Champ, un championnat de course de régularité Midi-Pyrénées et Aquitaine, ce qui permettait effectivement d'avoir donc des relances et des retombées. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le rallye, notre épreuve grosso modo, c'est 600 concurrents qui l'ont fait, dont on va dire sans doute un gros tiers qui ont fait plusieurs épreuves, donc c'est intéressant. Et puis c'est chaque épreuve fait 450 km, donc ça fait grosso modo 5000 km de course. Et puis c'est chaque fois une soixantaine de bénévoles, donc il y a pratiquement un bénévole par voiture, donc ça fait donc là aussi 600 bénévoles, ça fait voilà. Et puis en termes de satisfaction aussi, c'est que nous n'avons pas eu de choses gravissimes à déplorer, et au contraire on a eu que des retours positifs. Voilà, donc rien ne dit qu'on fera les 20e, mais c'est sûr qu'on fera le 10e, voilà.
Donc ça demande de l'investissement aussi humain. Donc l'avantage que vous avez, même si vous étiez que 12 au démarrage, c'est que vous étiez 12 actifs sûrement, alors que dans l'organisation souvent on a des associations où ils sont 100 ou 200, mais il y a 4 actifs à l'intérieur, et du coup ça devient beaucoup plus difficile à gérer, à organiser. Donc vous n'avez pas de problème de ce côté-là, vous avez quand même une équipe assez active qui sait bien se répartir les rôles.
On n'a pas de problème. Je pense qu'on n'a pas de problème pour deux raisons. D'abord parce que les rôles sont bien définis, qu'on a un patron qui est Didier, donc ça, il définit des rôles. Et deuxièmement, on n'a pas d'ego. Donc comme on n'a pas d'ego, on fait pour l'équipe et ça nous va très très bien. C'est important. Et la troisième chose, c'est que je crois, et la clé est là, c'est que ça nous fait vraiment plaisir.
Voilà.
Comme ça nous fait plaisir, on sait le faire partager.
Je voudrais simplement rebondir sur ce que vient de dire Jean-Luc. Les rôles ont été distribués implicitement. C'est-à-dire que chacun s'est mis à sa place. Il n'y a pas eu, Jean, toi tu vas faire ça, Paul tu vas faire ça. Non. Les gens se sont mis aux endroits qui leur plaisaient le plus. Ça s'est fait implicitement, et en fait tout le monde touche un petit peu à tout. C'est pour ça que chaque petit problème, il est réglé en interne, et ça remonte pas forcément, et ça ne désorganise pas la petite pyramide qu'on a mis en place.
Voilà. Alors ensuite, on a organisé une épreuve, hein, c'est un budget aussi, et donc là, on va s'adresser au trésorier. Vous avez la chance quand même d'avoir eu de très bons partenaires dès le début qui vous suivent toujours.
Oui, bon, ben c'est certain que sans l'aide de nos partenaires, le rallye, le Bordeaux Sud-Ouest Classique ne pourrait pas avoir lieu. Alors bon, mais comme a dit Didier tout à l'heure, hein, dès la première édition, nous sommes partis du Casino Théâtre Barrière de Bordeaux. qui nous apporte une grosse aide côté logistique, locaux, etc., pour tout ce qui est vérification et suivi du rallye. Donc ce premier partenaire est partenaire historique depuis la première édition. Et puis ensuite, nous avons trouvé des partenaires, et là ça a été un travail de toute l'équipe en fonction de ses relations, etc., professionnelles ou autres. Et donc dans ces fidèles partenaires, on peut citer Stradale, Alfa Romeo, on peut également citer Sud-Ouest Radiateur, on peut citer l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, les huiles AFA, tout ça par relation de l'équipe organisatrice de la manifestation, quoi.
Voilà, on va, quelque chose d'important, on le voit, c'est que ce sont des sponsors locaux.
Effectivement, comme ça a été du démarchage personnel de l'équipe, il n'y a pas eu de contact plus éloigné. On a cherché à avoir des sponsors partenaires locaux qui pouvaient être à même d'avoir quand même quelques retombées de notre manifestation.
Voilà, et puis donc une grosse couverture aussi médiatique, on va dire, pour l'événement. Au fil des années, on a quand même beaucoup de médias qui en parlent, mais par l'intermédiaire, je pense aussi de Jean-Luc.
On arrive à avoir d'abord on a une couverture de Sud-Ouest dès le départ, et ça c'est très important. On ne peut pas faire quelque chose dans la région sans passer par Sud-Ouest, et c'est tout à fait agréable, et on est très content, et on a donc Sud-Ouest papier, Sud-Ouest
numérique
et même des vidéos. L'année dernière on a eu des vidéos, donc ça c'est vraiment très bien. Ensuite on a quelques relais nationaux, et ça aussi c'est très important, en particulier dans des magazines comme La Vie de l'Auto et puis Échappement Classique. Et c'est pas facile d'avoir ces retombées, parce que le nombre d'épreuves s'est multiplié énormément. Les épreuves sont pas toutes égalitaires. Et évidemment, une fois qu'on a eu, comme dans Échappement Classique, quand on a eu 5 pages d'un magazine de grande qualité, c'est compliqué de redemander les 5 pages l'année d'après. Voilà, donc on essaie de trouver des pistes différentes. Et puis on essaie également de s'intéresser à des, je dirais, et ça n'est pas du tout péjoratif, mais des médias un peu moins importants. L'année dernière, par exemple, on tournait dans le Libournais, donc on a travaillé avec le Résistant. Cette année, on va tourner du côté de Bourg, on va travailler avec le magazine Haute Gironde, ce qui permet de parler ce qu'on veut. Moi, l'idée qui m'intéresse, c'est de faire venir les gens à la course. Alors, c'est pas de moi, cette idée-là. Elle est d'un énorme monsieur qui s'appelait François Guittaire, qui disait l'intérêt des rallyes, c'est de faire passer les voitures au pied des maisons des gens. Et nous, notre intérêt, c'est ça. Donc, évidemment, si on avait demain la couverture de TF1, on serait pas mécontent. Mais finalement, ça nous apportera pas grand-chose, sauf un petit peu d'ego. On pourrait se regarder dans la glace, mais c'est tout. C'est plus intéressant de passer effectivement sur TV7, de passer sur la presse locale, de passer à O2, ça nous fait très plaisir, et vraiment sincèrement ça nous fait très plaisir, parce que finalement notre clientèle elle est là,
local,
et on essaie de faire plaisir à la fois aux pilotes, à la fois aux spectateurs, et je terminerai là-dessus, c'est également, on a également un rôle promotionnel pour la région. Tous les ans, nous avons des équipages qui viennent d'Angleterre, d'Espagne, d'Italie, de Belgique, des gens comme Alcaïx, des gens comme ça, qui viennent avec leur voiture. Et c'est important, ou des Parisiens, c'est autre race d'étrangers, donc qui viennent nous voir et qui viennent découvrir la région à une belle période, puisque ça se fait à la fin du mois de juillet. Donc on les fait passer à travers les vignes. On les fait s'arrêter de temps en temps pour voir ce qu'ils pourront boire quand l'épreuve sera terminée. Et à la fin, on leur remet du vin pour qu'ils aient le plaisir gustatif, après le plaisir olfactif et le plaisir visuel.
Voilà, alors une chose très importante, c'est vrai que la voiture, quand on est tout petit, c'est une des premières grandes passions qu'on va avoir. Souvent, c'est pour une voiture, et c'est historique aussi. Ça nous rappelle la voiture de papa, la voiture de papy. Et c'est vrai que refaire passer tous ces véhicules anciens au pied des maisons, bah, c'est aussi redonner à chacun cette petite étincelle qu'il a eue en reconnaissant une voiture et qui lui rappelle un pan de son histoire.
On est transmetteur de mémoire et transmetteur d'histoire. Et effectivement, justement, vous le disiez, les gens qui viennent nous voir régulièrement, on a souvent trois générations, le grand-père et la grand-mère, évidemment. Le grand-père, le père et le fils, ou le petit-fils. Et c'est, ah, ça, c'est l'auto qu'avait papy, ou ça, c'est l'auto que j'avais, avec tous les regrets de l'avoir vendu, parce que il faut bien vivre, mais avec également tous les souvenirs.
Voilà. Et puis, on va le rappeler, c'est que pour le public, c'est gratuit.
Oui, c'est gratuit. C'est gratuit pour le public et c'est à prix coûtant pour les participants. Donc, on essaie de serrer et évidemment, notre trésorier fait très attention à ça au niveau des budgets. On n'a aucune vocation d'avoir demain un compte à Panama. Ça n'est pas notre but.
Non, vous auriez fait du foot sinon.
Voilà, sinon, on aurait fait du foot.
Voilà, mais c'est, on va le dire, hein, c'est important aujourd'hui justement parce que tout le monde n'a plus la capacité physique ou financière de voyager, de se déplacer. Là, l'importance de ces événements, c'est quand même de ramener de l'histoire, de ramener ces joies à tout un tas de gens au pied de leur maison, juste à côté de chez eux et encore une fois, gratuitement.
Je voudrais rajouter une chose, c'est que lorsque nous préparons le parcours d'une épreuve, on rencontre beaucoup de maires.
Oui, puisqu'on a l'obligation en plus de déclarer à chaque maire et de lui demander, voilà.
Donc, et il y a des endroits qui sont plus jolis que d'autres et où on a envie que les voitures tournent un petit peu plus, dans lequel on a envie que les voitures tournent un peu plus longtemps. Et on rencontre donc les élus. Et je crois qu'aujourd'hui, en 10 ans d'histoire, on n'a jamais essuyé le refus d'un maire. Quand je dis un maire, enfin d'un élu municipal, pour que les voitures passent chez eux. Et au contraire même, on nous demande de passer plutôt ici que là, et que ça, au contraire même, ça, voilà, ça fait une animation. Une fois de plus, ça tend à prouver que l'automobile n'est pas l'engin qu'on essaie de bien vouloir nous faire penser qu'il est, mais ça reste quand même un très bel objet mythique et toujours dans l'esprit de liberté.
Oui, alors c'est vrai que la voiture, hein, c'est un petit peu une vache à lait pour tous les gouvernements. Donc, prendre de l'argent, vous polluez trop, donc on va vous prendre des sous avec une taxe. Quand les prix du pétrole montent, eh ben, l'essence monte. Quand le pétrole redescend par des mécaniques, on nous explique qu'il faut pas redescendre justement les tarifs. Donc, c'est vrai qu'ensuite, ben, on a cette problématique. Et à Paris, notamment, aujourd'hui, la loi serait d'interdire le passage en ville des véhicules historiques.
Ah, c'est quelque chose qui nous pend au nez. Il y a beaucoup de choses qui nous pendent au nez. Il y a ce problème, effectivement, de la soi-disant pollution des voitures. Et on sait que c'est vrai, mais on sait aussi que c'est marginal. Et puis, les voitures anciennes, il faut savoir que nos autos, et on en a tous plusieurs, on fait à peu près 1500 km par an avec la voiture ancienne. Donc c'est vraiment rien par rapport à tout le reste
qui en quelques minutes pollue beaucoup plus que tout ce qui va être fait dans l'année.
Donc on a ce risque-là. On a aussi le risque lié à la valeur des autos. Chacun est persuadé d'avoir dans son au fond de son garage avec une P60, et j'ai rien contre la P60, de dire j'ai une auto qui vaut 40 000 €. C'est pas tout à fait vrai. Donc il faut que les gens fassent un petit peu attention à ça. Donc c'est le deuxième risque, voilà. Mais c'est aussi quelque chose d'intéressant de savoir qu'on peut contrer avec nos épreuves, on peut contrer ces idées-là et de dire que finalement c'est aussi un plaisir et c'est un plaisir sain puisqu'on fait pas de vitesse, on fait plus de la régularité chronométrée que de la vitesse.
Très bien. Allez, on va faire la deuxième pause médicale, musicale avec ce coup-ci le Unchained My Heart de Gauthier Piqué encore une fois.
Unchain my heart, baby, let me be. 'Cause you don't care, help me. Set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fellow tell me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart,
unchain my heart,
baby, let me be. Unchain my heart,
unchain my heart,
baby, let me. You got me see black like a pillowcase, but you let my love go to waste. Unchain. Unchain my heart,
unchain my heart,
let me go my way. Unchain my heart,
unchain my heart,
you only mean I didn't do. Why leave me trouble, life of misery, when you don't care about convince for me. Unchain.
Et donc on le rappelle, on a eu la joie d'écouter Gauthier Piquet. On aura l'occasion sûrement de le réentendre sur les ondes et pas que les nôtres pendant très longtemps. Alors on va revenir avec le grand-père de Gauthier sur sur cette...
Il est très ému.
Ouais, je le vois, 10e édition du Bordeaux Sud-Ouest Classique. Ouais. Alors, cette édition, départ du Casino Barrière.
Ouais, le 23 juillet 2016 au matin. Donc les vérifications administratives et techniques à partir de 7h30 sur le parvis du casino. Magnifique allée bordée de cocotiers, c'est absolument superbe. Donc première voiture, logiquement les timings sont pas encore tout à fait validés. Première voiture ou 10h30 ou 11h, enfin bon, c'est dans ces eaux-là. Départ donc de minute en minute du casino Théâtre Barrière de Bordeaux. Arrivée de la première voiture à Bourg-sur-Gironde, à Soulal, où va avoir lieu le pique-nique. Là, nous recevons nos concurrents pour le pique-nique. Redépart de Bourg-sur-Gironde pour quelques kilomètres, on va dire 150 kilomètres, dans la nature autour de Bourg, avec un regroupement à Saint-Paul-de-Blaye, pour ce que nous appelons la pause goûter. On offre quelques rafraîchissements à à nos participants. Et retour vers Bourg-sur-Gironde, où nous serons reçus par la Maison des Vins de Bourg pour un apéritif, et le dîner aura lieu au château de la Citadelle, qui surplombe la Dordogne. Redépart de Bourg-sur-Gironde, 22h, direction Bordeaux, pour une étape de nuit, parce que l'étape de nuit fait partie de l'ADN et de l'identité du Bordeaux Sud-Est classique. En rallye, autrefois, on roulait la nuit. Aujourd'hui, à 6h, ils sont tous à l'hôtel, nous, on roule la nuit. C'est comme ça. Et la tête sur le bio, qu'on continuera à rouler la nuit au Bordeaux Sud-Est classique. Donc, retour vers le casino Théâtre Barrière de Bordeaux, samedi soir, arrivée de la première voiture, j'irai vers minuit et demi, au casino. Redépart le lendemain matin, à 8h30, après un briefing. Redépart le lendemain matin pour Arveyre, pas par la ligne droite, naturellement, vous vous en doutez facilement. Et retour au casino Barrière pour midi 30, 13h le déjeuner et la remise des prix, et 15h, pour nous 15h, la fête est finie, mais les gens restent et nous restons avec eux, parce qu'on refait la course, on refait le match.
Voilà, alors toutes les informations, bien sûr, on les mettra sur le Facebook de l'émission, donc sur Facebook, vous cherchez À toute berzingue, ou directement sur la page, c'est facebook.com/O2ATB, O2 pour la radio, et ATB pour À toute berzingue. On mettra tous les liens, et notamment celui de votre site internet, www.écurie-du6atlantique.net, où il y aura effectivement toutes les informations pour le public. Alors le public, bien sûr, tout au long du trajet, va pouvoir voir les véhicules passer, mais pour ceux qui veulent, qui sont pas sur le trajet et qui veulent se déplacer, les grands pools où ils pourront observer tous les véhicules, on va les rappeler.
Donc c'est le casino Barrière de Bordeaux, le samedi 23 juillet à partir de 9h, voilà, et ce jusqu'à 11h, Bourg-sur-Gironde, sur la place du district, les voitures seront garées là vers 13h. Elles seront de retour, Saint-Paul-de-Blaye, bien sûr, où les voitures seront regroupées. Retour à Bourg-sur-Gironde le samedi 23 juillet au soir, sur le parking de l'école qui fait face à la Maison des Vins de Bourg. Et pour le dîner, les voitures seront en parc sur le parking de la Citadelle, en haut de Bourg. Et le lendemain, retour au casino Barrière de Bordeaux, où les voitures seront exposées le dimanche pendant le déjeuner.
Voilà. Alors, vous m'avez parlé d'une chose, c'est que vous vouliez qu'on organise un petit concours par tous les auditeurs et les fans de rallye ancienne voiture. Donc, on va le mettre en place. On a à peu près décidé du lot, on verra, mais tout au long donc des émissions jusqu'au mois de juillet, on va faire un petit concours pour faire gagner, on espère, 2 places pour Nogaro.
Oui, pourquoi pas. Oui, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et j'espère que ça fera plaisir aux récipiendaires. Là, on va mettre en place un petit concours avec des questions simples, amusantes, mais un petit peu techniques aussi. Il faut que tout le monde y trouve un petit peu son plaisir. Donc je pense que Jean-Luc, Henri et moi, on va travailler là-dessus. Ça sera pas piégeux, mais il faut agrémenter la chose. Et puis au bout, 2 tickets d'entrée pour le Grand Prix historique de Nogaro.
Voilà, donc merci beaucoup, parce que c'est une belle initiative, et de continuer à faire participer nos auditeurs ou ceux qui vont nous rejoindre sur ça, et puis leur faire aussi découvrir un petit peu plus Bordeaux Sud-Ouest classique. C'est vrai que c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que vous attendez encore pour cette édition? Tout est bien calé, tout est bien, où il y a encore des manques et des besoins?
On attend les concurrents mais ça c'est normal, hein. C'est toujours un peu tôt. On a déjà une liste qui est satisfaisante. On est dans les clous par rapport à ce que nous avons d'habitude. Mais oui, on est plutôt pas mal pour l'instant.
On a 60 participants à peu
près. Oui, c'est ça, une soixantaine de participants.
Voilà.
Avec des belles autos pour situer les voitures que nous avons traditionnellement. Alors, on a évidemment la berlinette, on vient d'en parler, mais on a aussi des Alfa Romeo, évidemment, on vient d'en parler. On a bien sûr des Porsche, mais on a toujours des voitures un peu étonnantes qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, on a eu des TVR, qui sont des voitures anglaises. On a eu une Chevrolet Corvair moteur turbo, ce qui est pas courant, et décapotable en plus. On a eu des voitures à 3 roues. On a des voitures comme la Relay 1.5, qui est une voiture typiquement anglaise des années 50. Et puis on a des cathérames ou des lotus, dont une qui est conduite par un abbé, donc l'abbé Vareil, qui vient régulièrement avec cette voiture de course, donc qui n'est jamais le dernier à l'arrivée, loin s'en faut. Et puis des autos bizarres de temps en temps qui nous font plaisir, des Alfa Romeo Montréal ou des choses formidables, mais puis même des Triomphes Dolomites. Donc c'est pour vous dire que nous sommes ouverts à tout.
Tout à fait. Je vois sur les photos des Lancia souvent aussi.
Ah oui, une Lancia Zagato extraordinairement belle, oui, très très belle, oui.
Oui, ça, cette voiture-là, comment dire, son propriétaire et sa voiture viennent là régulièrement, je crois, depuis la première édition. Je vais l'appeler par son nom, il s'appelle Jacques Baron, qu'il en soit remercié. Il vient avec cette extraordinaire Lancia Flaminia Zagato, qui est d'une beauté à couper le souffle. Ça, c'est clair. À part ses roues, mais je lui ai déjà dit à Jacques.
Donc voilà, donc sur, je pense que de toute façon, on informera, et puis sur les sites internet, les concurrents sont inscrits, on sait un petit peu à l'avance déjà qui va participer.
Oui, on a une liste effectivement d'habitués de l'épicerie, comme je dis, et pour l'instant j'ai encore pas, mais on fait tous les ans à la même époque, on psychote un petit peu sur la quantité de sur la quantité de concurrents.
Et à l'arrivée, vous êtes obligé d'en refuser.
Non, il est hors de question de refuser du monde, quoi qu'il en soit. Mais non, ça va se passer, ça va bien se passer.
On ne refuse que les grincheux, mais on n'en a pas.
Ça tombe bien. Mais les gens peuvent aller, on voit les photos des éditions précédentes, donc n'hésitez pas à aller sur le site internet www.écurie-atlantique.net, et c'est vrai qu'on voit les photos des éditions précédentes.
Tout à fait.
Voilà, et que ça permet de faire rêver. On arrive déjà sur la fin de l'émission. C'est vrai qu'une heure, ça passe vite quand même. Alors, un petit mot de la fin, chacun, pour commencer, Didier.
Oui, je souhaite bonne chance au 10e Bordeaux Sud-Est Classique. Je lui souhaite d'être aussi beau et aussi réussi que l'a été le précédent. Et puis, un grand merci à vous de nous avoir reçus.
Jean-Luc.
Écoutez, c'est un plaisir de faire revivre l'époque du Bordeaux Sud-Ouest qui a été une épreuve importante du championnat de France pendant longtemps, avec des voitures mythiques et des pilotes mythiques. Alors on a gardé les voitures, on n'a peut-être pas toujours les mêmes pilotes, effectivement, mais c'est pas non plus le même type d'épreuve. Et c'est quelque chose de très festif, on est très très content de pouvoir faire participer le monde de l'automobile et le monde d'aujourd'hui à cette épreuve.
Un petit mot d'Henri.
Bien, je dirais qu'au stade actuel de la préparation du Bordeaux Sud-Ouest Classique, c'est toujours un peu l'inquiétude, que ça soit au niveau du nombre des participants, que ça soit au niveau de la météo qu'on peut pas prévoir et qui gâcherait un peu la fête. Mais en fait, le plaisir, il est surtout quand l'épreuve démarre. Et là, quand on voit, et surtout à la fin de l'épreuve, quand on voit les gens qui viennent vous remercier, qui vous disent « on a vu des paysages superbes, on aimerait revenir », etc. Je dirais que c'est là toute la satisfaction qu'on peut avoir. Et puis surtout de se dire « bon, ben une édition de plus qui s'est bien déroulée, on n'a pas eu de pépins, etc. » Voilà, ben espérons que la 10e édition du Bordeaux Sud-Ouest Classique, ça va être un peu de tout ça.
Voilà, et bien moi je vais vous remercier déjà d'être venu sur le plateau pour nous parler de l'écurie Atlantique et nous parler, et c'est effectivement du Bordeaux Sud-Ouest Classique, mais ben voilà, merci de l'organiser aussi et de continuer à faire vivre ces pages d'histoire, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, et il faut que derrière il y ait une aventure humaine et des personnes qui s'engagent sans penser à des questions financières, mais à des questions de passion, et pour donner à ces centaines de participants et ces milliers voire dizaines de milliers de touristes et de gens qui vont pouvoir nous voir ces véhicules l'occasion de se faire de faire revivre des petits moments d'histoire et de passion. Merci à Jonathan qui était à la technique aujourd'hui. L'émission sera rediffusée sur la radio demain et sur internet. Elle sera disponible soit sur le site d'O2 Radio, www.o2radio.net, soit sur la page Facebook de l'émission. Merci à vous trois, et puis très bonne chance pour cette 10e édition du Bordeaux Sud-Ouest Classique.
Merci.
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 Berzin. Le magazine Automoto d'Aude Radio avec Jean-Manuel aux manettes le lundi à partir de 11h, rediffusion le mardi à 11h sur le 91.3 FM.